Radio Prague, les informations.
Bonjour. Les 3 jours de carence, le délai pendant lequel un employé en arrêt maladie n'est pas indemnisé, ont été supprimés à compter de ce lundi. La société britannique Liberty Steel a repris le site d'ArcelorMittal à Ostrava. De nouveaux records de chaleur ont été enregistrés dimanche en République tchèque. Les 3 jours de carence, le délai pendant lequel un employé en arrêt maladie n'est pas indemnisé, ont été supprimés à compter de ce lundi 1er juillet. Au début de l'année, la Chambre des députés, qui avait déjà adopté à une nette majorité le projet d'amendement au Code du travail allant dans ce sens en octobre dernier, a surmonté le veto du Sénat et ainsi donné le feu vert à une mesure depuis longtemps soutenue par les partis de gauche. En échange, les entreprises obtiendront une compensation sous la forme d'une baisse de certaines cotisations sociales. Pour rappel, depuis 2009 et la réintroduction du délai de carence, les Tchèques contraints de recourir à un arrêt maladie n'ont pas été indemnisés durant les 3 premiers jours de leur absence. À compter de l'entrée en vigueur de l'amendement ce lundi 1er juillet, leur indemnisation correspondra à 60% de la rémunération de base journalière. Le groupe sidérurgique ArcelorMittal a achevé la reprise de la branche tchèque de la société installée à Ostrava, dans le nord-est de la République tchèque, par la société britannique Liberty Steel. Il s'agit de la filière de Gupta Family Group, du milliardaire britannique et d'origine indienne, Sanjeev Gupta. Ce dernier a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de limiter la production de l'usine sidérurgique tchèque, appelée désormais Liberty Steel, et l'emploie plus de 7200 personnes dans une des régions du pays les plus touchées par le chômage. Afin de répondre aux inquiétudes de la Commission européenne sur la concurrence, le groupe ArcelorMittal était tenu de céder ses sites en République tchèque et dans 3 autres pays afin de pouvoir acquérir l'acierie Ilva en Italie. Le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, effectuera lundi prochain une visite en République tchèque. Riyad al-Maliki sera notamment reçu par son homologue tchèque, le social-démocrate Tomáš Petříček. Les ministres devraient discuter de l'aide humanitaire et au développement apporté par la République tchèque à la Palestine, des possibilités d'échanges commerciaux entre les deux pays et du processus de paix au Proche-Orient. À Prague, Riyad al-Maliki doit également rencontrer les ambassadeurs des pays de la Ligue arabe en République tchèque. Quelques 563 cas de rougeole ont été diagnostiqués en République tchèque depuis le début de l'année. Au cours des 6 dernières semaines, le nombre de nouveaux cas a diminué, a fait savoir le ministère de la Santé. Les autorités sanitaires ont en effet enregistré moins de 10 nouveaux cas hebdomadaires. La semaine dernière, 3 cas de rougeole ont été déclarés. La maladie a fait sa réapparition dans le pays en 2014. Son retour en force dans toute l'Europe est lié entre autres à la baisse de la couverture vaccinale. L'année scolaire 2017-2018 a vu un nombre record d'étudiants Erasmus venus suivre leur cursus universitaire en République tchèque. Près de 11 000 étudiants étrangers sont venus étudier dans les universités et grandes écoles du pays, soit le nombre le plus élevé depuis que le programme existe, soit 20 ans. D'après la Maison de la coopération internationale de Prague, il s'agissait surtout d'étudiants venus d'Espagne, de France et de Slovaquie. La réalisatrice Helena Třešníková a présenté ce lundi au Festival international du film de Karlovy Vary son nouveau documentaire qui retrace la carrière du célèbre cinéaste tchéco-américain Miloš Forman, décédé en avril 2018. Intitulé Forman versus Forman et coproduit par Arte, le documentaire a été projeté à l'hôtel Thermal devant une salle bondée. En mai dernier, le film avait été présenté en première mondiale au Festival de Cannes dans la section Cannes classique. La 54e édition du Festival de Karlovy Vary se poursuit jusqu'au 6 juillet prochain. De nouveaux records de chaleur ont été enregistrés dimanche dans plusieurs endroits du pays. Le mercure a atteint un maximum de 38,8 degrés dans la banlieue de Prague, à Dobřichovice. La plus ancienne des stations météo du pays, située au Clementinum, dans le centre de Prague, a enregistré 37,9 degrés, soit un record absolu pour cette station météorologique fondée en 1775. Écoutez prévision après un passage passage orageux attendu en République tchèque ce lundi, la canicule devrait reculer en République tchèque. Mardi, jour de fête des patriciens, le temps sera nuageux avec éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures seront comprises entre 22 et 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrosinková. La suite du programme avec Colin Gruel.
Les événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Voici le sommaire de la deuxième partie de votre programme. Politique, l'alliance gouvernementale entre le parti ANO et les sociaux-démocrates n'a rien d'un long fleuve tranquille. Faut-il s'attendre à des élections anticipées ? Anna Kubishta fait le point. Le festival international du film de Carlo Vivari vient de s'ouvrir. Alexis Rosenzweig a rencontré un membre du jury. Et puis en ces temps de Coupe du Monde de football féminin, Guillaume Narguet reviendra sur le parcours d'Antoni Eshtarova, jeune joueuse et espoir du foot féminin en Tchéquie. Allez, bonne écoute. Et on commence comme chaque jour avec la politique et le refus du président tchèque Miloš Zeman d'accepter le remplacement du ministre de la Culture Antonín Staněk, qui provoque des remous au sein de la coalition gouvernementale formée par le mouvement ANO d'Andrej Babiš et le parti social-démocrate de Jan Hamáček. À la veille d'une rencontre au château de Prague entre le président tchèque, le leader des sociaux-démocrates et le premier ministre, l'ombre d'élections anticipées ou d'une gouvernance avec le soutien du parti d'extrême droite SPD plane sur le cabinet Babiš. On en parle avec Anna Kubishta.
En avril dernier, le limogeage du directeur de la Galerie nationale de Prague, Jiří Fajt, avait suscité une vague de soutien en sa faveur et des appels à la démission à l'encontre du ministre de la Culture, Antonín Staněk. Deux mois plus tard, cette affaire a des conséquences sur un gouvernement de coalition dans la tourmente. En quelques semaines à peine, c'est en effet la seconde fois que le Parti social-démocrate évoque clairement la possibilité de quitter le gouvernement. Le refus du président Zeman de signer le remplacement d'Antonín Staněk par un autre candidat du ČSSD, Michal Šmarda, a poussé le leader des sociaux-démocrates Jan Hamáček à parler de crise constitutionnelle.
Il s'agit d'un candidat du Parti social-démocrate. Selon l'accord de coalition, le Parti social-démocrate a le droit de choisir ses ministres. S'il perdait ce droit, je ne vois pas pourquoi nous devrions rester dans le gouvernement.
Cette crise met tout particulièrement en lumière l'impasse dans laquelle le ČSSD se trouve, sanctionné par les urnes, plombé par le chef de l'État qui règle ses comptes avec ses anciens collègues. Les sociaux-démocrates payent aussi le prix de leur alliance avec le mouvement ANO, considéré par de nombreux sympathisants comme contre-nature. Et ce, a fortiori, dans un contexte où Andrej Babiš est contesté par une frange de la population, choquée par les soupçons de conflit d'intérêts qui pèsent sur sa personne. En dépit donc du climat tendu de ces derniers jours, le Premier ministre semblait plutôt confiant sur l'avenir de la coalition lors du débat dominical de la télévision tchèque.
Je veux aider Jan Hamáček à imposer son candidat au poste de ministre de la Culture, Michal Šmarda. Je pense que les sociaux-démocrates ne quitteront pas le gouvernement. Pourquoi le feraient-ils ? Ce serait un véritable suicide car cela signifierait de facto des élections anticipées. J'irai au Parlement, je rencontrerai les leaders des différents partis représentés et je leur demanderai s'ils veulent des élections anticipées ou s'ils ont une autre solution.
Autre scénario envisagé, sancillé par le président Miloš Zeman dans un entretien accordé au quotidien Mladá Fronta Dnes, dans le cas où les sociaux-démocrates quitteraient le gouvernement, celui-ci pourrait être tout simplement remanié et soutenu par le parti d'extrême droite SPD. Si cette alliance terrifiante, comme la qualifie dans un récent article le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Respect, devenait réalité, la République tchèque perdrait ce qui lui reste de crédibilité, estime encore Eric Tabéry. Jusqu'à présent, Andrej Babiš a toujours rejeté toute éventuelle collaboration avec le parti anti-migrant et anti-européen de Tomio Okamura. Tous les regards sont désormais tournés vers le château de Prague où mardi, le chef du gouvernement se fera fort de convaincre un président jusque-là inflexible.
La culture à présent. Le festival international du film bat son plein cette semaine à Carlo Vivari. Une douzaine de longs métrages figurent dans la compétition principale et c'est le grand jury qui doit déterminer lequel recevra le Globe de Cristal cette année. Parmi les jurés cette année se trouve le délégué général de la semaine de la critique du Festival de Cannes. Alors entre deux projections, Charles Tesson a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Bonjour Charles Tesson. Bonjour.
Quel bon vent vous amène à Carlo Vivari?
Et on m'a proposé, Karel Hoche m'a invité, m'a proposé d'être dans le grand jury du festival. J'ai accepté avec un très grand plaisir.
C'est votre première fois ici?
Oui, incroyable, mais oui, c'est la première fois que je viens à Carlo Vivari. Oui.
Quelles sont vos impressions, alors, 3 jours après le début du festival?
Excellente. On sent que c'est un festival extrêmement chaleureux. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de public. C'est très vivant, on sent que la ville vit au diapason du festival et du cinéma. L'endroit est magnifique, les salles sont très grandes. Et non, je suis très bon, ça fait du bien et c'est réjouissant de voir des festivals comme ça. Oui.
En tant que membre du jury, vous ne pouvez évidemment pas parler des films. Est-ce qu'on peut quand même dire un mot de la sélection en général? Est-ce que c'est une sélection, disons, grand public? Karel Hoch aime bien dire que c'est légèrement pointu.
Je ne peux pas dire, on a vu 3 films, et je ne regarde même pas le catalogue pour savoir de quoi parlent les films ni les scénarios, et je ne sais à la limite même pas de quel pays il s'agit. Enfin, je sais que là, ce soir, il doit y avoir un film slovaque coproduit avec la Tchéquie, mais j'essaye de me préserver au maximum des informations sur le film, parce que j'adore les découvrir sans savoir où ils vont m'emmener, ce qui est un peu lorsqu'on sélectionne les films pour la semaine. Je ne sais pas non plus de quoi ça va parler, ni quoi que ce soit. Et j'aime bien être dans cette situation-là. Et comme de nos jours, c'est de plus en plus rare, parce qu'on a tous des informations sur ce que sont les films, on a entendu parler, ce que des gens en pensent, et on se fait son avis parmi d'autres avis déjà existants. Et je trouve que c'est encore un luxe, donc j'essaye de le préserver.
Vous allez donc voir ce soir une coproduction tchèque. Est-ce que vous connaissez un petit peu la cinématographie tchèque?
Bien sûr, oui. On reçoit quelques films tchèques à la semaine chaque année. Et puis il y a eu quand même dans l'histoire de la semaine de la critique, il y a eu 6 films tchèques quand même. Mais c'était surtout dans les grandes années de la Nouvelle Vague, entre 63 et... En 63, il y avait un film tchèque. En 64, il y en avait 2, dont un film de Vera Kitilova et un autre en 65, Jan Nemec. Donc oui, il y en a eu 4. Après, il y en a eu 2 autres plus tard, en 90, 98. Mais depuis, effectivement, 20 ans, il n'y en a pas eu. On en a vu. J'ai vu l'an dernier celui qui était en compétition ici, qui était sur le coureur cycliste un peu fou qui s'entraînait dans son appartement et ça brisait son couple. J'avais bien aimé, d'ailleurs. Et j'avais appris que Karel l'avait lui aussi beaucoup aimé, l'avait montré ici. Mais oui, voilà.
Alors, vous connaissez personnellement Karel Hoch, le directeur artistique du Festival de Carlo Vivari. Quels sont les liens en dehors de votre connexion personnelle entre Cannes et Carlo Vivari? Est-ce que c'est une vraie coopération ou est-ce que c'est toujours un peu dans la compétition entre tous ces festivals?
Non, il n'y a pas de compétition. C'est-à-dire que Karel, moi, j'ai rencontré dans différents festivals. À Locarno, on était ensemble jurés au festival de Morelia pour la 15e édition avec Bellatar, Christian Pouillou et Christophe Teresch, qui maintenant s'occupe du festival Marrakech, qui était à l'époque à la Forum Berlinale. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et moi, quand je vois des films, il y a des films qu'on ne peut pas tous nous les prendre. Je dis à Karel, des fois, tiens, mais j'ai vu ça. Enfin, je fais des recommandations parce que quand on aime les films et on a envie qu'ils aient leur vie, c'est-à-dire qu'ils soient pris dans le festival, donc c'est tout. On les recommande à nos amis. Ouais.
C'est difficile pour le festival de Carlo Vivari de trouver sa place dans le grand jeu des festivals qui sont un peu plus grands, comme Cannes, évidemment, Venise et Berlin.
Je trouve qu'il s'en tire très bien parce que je découvre le festival là, c'est toujours important de... J'en avais entendu parler en bien, je voyais les films qu'il prenait, y compris ceux de la semaine et parmi les autres de Cannes. Parce qu'il a une mission, il a une double mission, lui, qu'ont beaucoup de festivals qui sont importants, c'est-à-dire il y a un public, comme à Locarno et tout, qui a envie de voir des films qui n'ont peut-être pas l'opportunité de voir en dehors de ce festival, qui sont un peu une sorte de best-of des autres festivals, d'avoir une sélection qui tient aussi son rang par rapport à tout le contexte des autres films, comme le fait Sarajevo également en août, etc. Je trouve que l'idée que j'en avais par rapport à ce qui se passait dont les amis me parlaient, c'est qu'il tient très bien son rang, à la fois d'avoir une qualité dans la compétition et dans ce qu'il propose d'inédit, selon les règles du festival, et puis aussi d'avoir une qualité de programmation qui permet d'avoir un public important et très jeune, de fédérer une sorte de rendez-vous de cinéma très fort pour le public. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des festivals qui sont des festivals, je dirais, de prospection et de découverte comme Cannes, parce qu'il n'y a pas de public, les salles ne sont pas faites pour ça, c'est réservé uniquement aux professionnels, et des festivals qui sont un hybride, qui ont à la fois cette fonction de découverte des cinéastes, et puis en même temps de permettre à un public de pouvoir se faire une cure de cinéma qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion d'avoir le reste de l'année. Donc ça, c'est très important que ces festivals-là existent, sont nombreux, et je pense que Carlo Vivlari, là-dessus, est extrêmement réussi.
Charles Tesson, merci, je vous souhaite de belles projections.
Et merci beaucoup, merci à vous.
Sport en République tchèque.
La République tchèque a beau ne pas participer à la Coupe du Monde en France, le football féminin ne s'y développe pas moins lentement mais sûrement comme presque partout ailleurs. L'histoire d'Antoni Starova en apporte la confirmation. Jeune internationale tchèque et étudiante, cette désormais ancienne joueuse du Sparta a décidé de quitter son confort pragois pour relever le défi du soccer universitaire aux États-Unis, terre promise du football féminin. Avec l'espoir de voir un jour son rêve de jouer en France se réaliser. C'est le sujet de notre rubrique sportive et c'est comme toujours Guillaume Narguet qui vous la présente.
Sedan bien un coup.
Ok, je vais au football.
Ok.
Ok.
Ano, Holki Rayo Football, oui, comme le confirme l'ancienne star Karel Poborský dans un récent clip de promotion de la Fédération tchèque, les filles jouent au foot en République tchèque aussi.
Bonjour, je m'appelle Antonia Starova, je joue football et j'ai joué à Sparta Prague et aujourd'hui je joue aux États-Unis à l'Université Delaware.
Antonia Starova en est certainement un des meilleurs exemples. Internationale tchèque, ancienne joueuse du Sparta Prague, le Sparta avec lequel elle a participé à la Ligue des Champions, Antonia Starova a fait le choix l'été dernier de tout quitter, famille, club, école, copains et copines, pour tenter l'aventure américaine. Désormais étudiante en psychologie à l'université du Delaware, elle a aussi défendu durant la saison écoulée les couleurs de l'équipe de soccer de la plus grande université de l'État éponyme située sur la côte est des États-Unis, le pays au monde où le football féminin est le plus pratiqué et le plus populaire.
Ze začátku a pak samozřejmě všechny nezůstanou hrát fotbal, tak je to jako v každý zemi, ale jenom jakoby ten začátek, kolik těch...
Nous avons rencontré Antonia Starova à Prague mercredi dernier, deux jours avant le match France-États-Unis comptant pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde féminine qui bat actuellement son plein dans l'Hexagone. Un mondial qu'Antonia, envieuse, suit très attentivement.
J'essaie de regarder chaque match. C'est un championnat très intéressant et vous pensez bien que je regrette beaucoup que la République tchèque n'y participe pas. Mais cela me fait très plaisir de voir que l'on parle autant du football féminin et que les gens s'y intéressent. Le public est nombreux dans les stades, même la télévision tchèque diffuse les matchs en direct. J'espère bien que j'aurai l'occasion de jouer de tels matchs un jour dans ma carrière.
Že ten ženský fotbal jde do toho povědomí a no určitě bych se ráda zahrála nějaký takovýhle zápasy.
Troisième de son groupe derrière l'Allemagne et l'Islande lors des éliminatoires, la République tchèque n'est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde, une compétition à laquelle elle n'a encore jamais participé. Antonia Starova, qui compte à ce jour 17 sélections en senior, espère toutefois que ce n'est là que partie remise.
Je pense qu'il ne nous manque plus grand-chose pour nous qualifier pour une grande compétition. Pour cela, il faudrait quand même que le niveau du championnat tchèque s'élève. Jusqu'à présent, la lutte pour le titre de champion se résume essentiellement à un duel entre le Sparta et le Slavia, qui sont les deux meilleures équipes, un peu comme en France avec Lyon et le Paris Saint-Germain. À l'exception des derbies et de la Ligue des Champions, les filles ne disputent pas assez de matchs difficiles.
Posouvala dál a zlepšovala. Jo, byli jsme právě blízko a je to ukázka toho...
Malgré cela, nous aurions pu nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous travaillons pour cela avec un très bon entraîneur, Karel Rada. Maintenant, le prochain objectif, c'est le championnat d'Europe en 2021. Y participer confirmerait la progression du football féminin en République tchèque.
Celá tahle velká éra ženského fotbalu ještě víc narůstat v České republice.
Actuellement 29e nation mondiale, la République tchèque reste encore le théâtre d'un développement du football féminin moins marqué que dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Lors d'un déplacement que l'Olympique lyonnais avait effectué à Prague en 2011 pour y affronter le Sparta en Ligue des Championnes, Jean-Michel Aulas, le président du meilleur club européen de ces 10 dernières années, avait expliqué au micro de Radio Prague pourquoi l'OL avait décidé d'investir autant de moyens dans le football féminin. 8 ans plus tard, le regard que Jean-Michel Aulas portait alors sur une discipline en plein boom reste plus que jamais d'actualité.
Les valeurs de parité sont d'actualité non seulement dans le football, mais dans la vie sociétale d'une manière générale. Deuxièmement, on s'est bien rendu compte qu'il y avait une cohérence entre justement ces valeurs qui tournent autour de la femme et puis du football qui est très collectif, qui peut être esthétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Bon, pour le rugby, c'est plus difficile pour de jeunes femmes de pouvoir s'imposer en dégageant justement ces valeurs, alors que dans le football, on peut avoir non seulement de la technique, non seulement du physique, mais aussi de l'esthétique. Donc voilà, donc il y a une esthétique individuelle, une esthétique collective, au secours ou au profit de ces valeurs de parité, où c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'une manière générale dans la société d'aujourd'hui de plus de femmes.
Les amis, je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né.
La tête bien sur les épaules, comme le confirme sa réussite dans les études supérieures comme sur le terrain, Antonie Starova, qui a commencé à pratiquer le football avec les garçons lorsqu'elle était encore toute petite, compte aujourd'hui parmi les rares joueuses tchèques à évoluer à l'étranger. Pour cette prometteuse milieu de terrain censée incarner l'avenir radieux du foot féminin tchèque, étudiée aux États-Unis où ses qualités de footballeuse lui ont permis d'obtenir une bourse qui finance l'intégralité de ses études, a été un choix bien réfléchi.
J'ai pris cette décision essentiellement en raison du football. Même si j'ai bien entendu tenu compte des possibilités pour les études, j'ai voulu donner la priorité au foot. J'ai senti que cela faisait suffisamment longtemps que j'étais au Sparta. Je ne voulais pas stagner, j'avais envie de découvrir un autre pays. Je me suis dit que si je ne tentais pas l'aventure à mon âge, je ne le ferais plus jamais. Je ne voulais pas avoir de regrets. Avec mon père, nous avions remarqué lors de la précédente Coupe du Monde que beaucoup de joueuses de différents pays étaient passées par des universités américaines. À l'époque, j'étais encore au lycée et je n'avais pas encore passé mon bac. Mais cette perspective est vite devenue un objectif concret pour moi. C'est comme ça que j'ai découvert que le niveau du football universitaire féminin était très bon aux États-Unis. Et aujourd'hui, je suis convaincue d'avoir fait le bon choix.
Un si bon choix qu'Antonie Starova s'apprête à donner une nouvelle dimension supplémentaire à sa carrière. À compter de la prochaine rentrée, c'est à l'Université d'État de Caroline du Nord qu'elle poursuivra ses études de psychologie, une science qu'elle avoue avoir choisie pour les possibilités qu'elle pourrait lui offrir dans le domaine du sport une fois sa carrière de joueuse terminée. Ce changement lui permettra surtout d'évoluer désormais sous le maillot du Wolf Park, le club omnisport de l'université, à un niveau plus relevé que celui de la saison écoulée à l'université du Delaware, une progression nécessaire aux yeux d'Antonie.
Je tiens à mon rêve, qui est de devenir footballeuse professionnelle. Je veux mettre toutes les chances de mon côté, mais on ne sait jamais de quoi sera fait demain, et surtout pas dans une carrière de footballeur où il y a beaucoup d'aléas. C'est pourquoi je compte bien aussi aller au bout de mes études et décrocher mon diplôme. Mais aujourd'hui, je suis dans une situation où toutes les conditions sont réunies pour que mon rêve se réalise. Si une équipe de la Ligue professionnelle américaine me faisait une proposition, je ne pourrais pas refuser. Mais mon plus grand rêve serait de revenir en Europe et de jouer en France. Ce serait pour moi le summum.
Malgré un niveau de français scolaire encore hésitant, Antonie Starova a bien volontiers accepté d'expliquer dans la langue de Franck Ribéry ce qui l'attire dans le pays des champions du monde.
J'aime français, j'adore la langue et aussi j'aime la France. J'ai visité Paris, Lyon, etc. Et les gens étaient sympathiques. Et j'aime aussi la mer. c'est vive la France.
Vive la France, mais aussi vive l'Amérique, car entre la France, le pays dans lequel elle se verrait donc bien jouer à l'avenir, et les États-Unis, son pays d'adoption, le cœur d'Antonie est partagé. Avant le match entre les deux pays, l'internationale tchèque ne cachait d'ailleurs pas qu'elle ne voyait pas les Bleus être sacrées championnes du monde.
Je pense non, mais la France joue beaucoup, mais je pense les États-Unis allaient gagner champion.
Antonie Starova, qui assistera à la finale de la Coupe du Monde à Lyon ce dimanche, ne s'est donc pas trompée dans son pronostic, ne serait-ce que pour le quart de finale remporté vendredi par les Américaines. La preuve, si besoin encore en est, que désormais, en matière de football, les femmes tchèques y ont, elles aussi, tout compris.
C'est la fin de votre programme en français. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir grossir les rangs de nos abonnés sur Facebook et Twitter et à retrouver tous nos entretiens et analyses sur radio.cz/fr. À bientôt. Ahoy. Thank you.